Réplique, le féminisme état des lieux, avec Eugénie Bastier et Clémentine Autain. Simone de Beauvoir écrivait en 1947, dans Le Deuxième Sexe, « La dispute durera tant que les hommes et les femmes ne se reconnaîtront pas comme des semblables. » Nous sommes en 2016. Les femmes ne sont plus confinées au foyer ni condamnées aux métiers subalternes. Avocats, architectes, diplomates, magistrats, ministres, les grandes professions et les plus hautes fonctions leur sont ouvertes. Elles divorcent sans rencontrer d'obstacles. Celles qui ne souhaitent pas poursuivre une grossesse peuvent demander à un médecin de l'interrompre. La procréation est aujourd'hui un choix et non un destin. Bref, une véritable révolution des mœurs a tout changé en quelques décennies. J'ai donc tendance à croire que la reconnaissance a eu lieu et que la dispute est ou devrait être close. Mais ce n'est pas à l'homme que je suis d'en décider. Je pose donc tout de suite la question à mes deux invités, Clémentine Autain, qui est entre autres qualités la porte-parole du mouvement Ensemble Front de Gauche, et Eugénie Bastier, rédactrice en chef politique de la revue Limite, qui publie « Adieu mademoiselle, la défaite des femmes ». Diriez-vous que le féminisme a gagné la partie ou que nous vivons encore dans une société patriarcale et que le combat continue, Clémentine Autain?
Alors d'abord, par rapport à votre introduction, je voudrais préciser que je pense que l'égalité entre les sexes est l'affaire des femmes, mais aussi des hommes. Parce qu'à partir du moment où on change la place des femmes dans la société, cela impacte aussi la vie des hommes. Et donc je pense que nous sommes trois voix, d'une certaine manière, autorisées à nous prononcer sur cette question.
Ah, si je puis me permettre. Merci de me donner une certaine légitimité.
Voilà. Par ailleurs, votre question, si l'alternative est ainsi posée, elle ne me convient pas tout à fait, parce que je pense que nous avons en effet gagné beaucoup, au point que je ne qualifierais pas le système français qui génère des inégalités entre les hommes et les femmes de patriarcal. Les décennies, et en fait le siècle, le 20e siècle, a été un moment de grande révolution, de bouleversement majeur à l'échelle historique, qui a permis aux femmes d'avoir l'égalité dans le droit, mais pas dans les faits. Et tout l'enjeu du 21e siècle, c'est de passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Alors, je ne parle pas de patriarcat, parce qu'il y a eu cette évolution. Je préfère un néologisme, qui est viriarcat, qui a été inventé par l'anthropologue Nicole Claude Mathieu. Vir, c'est le mari, le héros, le soldat. Et c'est une façon de désigner la domination du masculin sur le féminin dans une société comme la société française. Et je ne partage pas votre optimisme. C'est-à-dire que, bien sûr, la situation est fort différente et heureusement, on a le droit de mettre un pantalon, on peut prendre la pilule, on a formellement le droit d'être ministre, etc. Et d'ailleurs, de fait, il en existe. Mais pour autant, l'égalité reste un mirage. Même sur des droits proclamés qui ne sont pas tout à fait dans la réalité. Vous parliez de l'avortement et de la contraception. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entraves, en dépit parce que l'information n'est pas suffisamment bonne, parce que des centres IVG ferment, parce que, je ne vais pas faire toute la liste, mais il y a des entraves, il existe des violences faites aux femmes qui sont très importantes en France aujourd'hui. Une femme meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Bon, je ne vais pas faire la litanie, mais les violences faites aux femmes sont une réalité très prégnante. Vous prenez le terrain du travail, l'égalité, alors là, elle reste introuvable. C'est-à-dire que vous avez non seulement une non-mixité des professions encore très très forte, également des inégalités de salaire qui sont criantes, et même la partie qu'on dit être non expliquée. Ce que je veux dire. Donc, je crois que on est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'en effet, les féministes ont gagné une partie. Et je trouve que les féministes ne parlent pas suffisamment, d'ailleurs, et vous le dites dans votre ouvrage, Eugénie Bastier, au début, que les féministes ne valorisent pas suffisamment ce que nous avons déjà gagné. Donc ça, je partage et je suis pour valoriser. Et pour autant, je suis pour voir que ces batailles mènent des fruits, permettent d'accroître la liberté des femmes. Et donc, il faut les poursuivre pour arriver à une égalité qui soit une égalité véritable.
Eugénie Bastier.
Oui, moi ce qui me dérange, c'est que vous parlez d'égalité réelle, mais cette égalité réelle, quand est-ce qu'elle sera tout à fait réalisée, obtenue? Est-ce que c'est le règne millimétré du 50-50? Est-ce que ce serait des vies masculines et féminines qui soient exactement semblables, comme le désirait Simone de Beauvoir? Est-ce que c'est abolir finalement l'asymétrie des sexes, qui fait qu'en effet la femme possède pour le moment le monopole de la maternité, jusqu'à ce qu'on invente l'utérus artificiel dans la Silicon Valley? Est-ce que c'est renoncer au particularisme féminin? Et finalement, je m'interroge parce que l'égalité de droit, elle existe. Et finalement, j'ai l'impression que le féminisme est devenu une idéologie, a perdu de vue la réalité concrète des femmes, ce que Christopher Lasch appelait la vie ordinaire des femmes, et finalement se perd dans des luttes picrolines qui ont peu de sens avec la réalité concrète des femmes. Par exemple, voilà, se battre pour la taxe tampon, pour supprimer Mademoiselle des formulaires administratifs, pour imposer des campagnes aux ailes clito, pour espèce de féminisme sectaire. Très très idéologique, qui n'a plus pour objectif d'aider les femmes concrètement dans leur vie, mais de déconstruire symboliquement un patriarcat aux mille visages. Ce féminisme-là, il me paraît à la fois non seulement inutile, mais contre-productif.
Je me permets d'intervenir, mais simplement sous forme de question. Vous parliez, Eugénie Bastier, de la vie concrète des femmes. Alors, je voudrais justement qu'on s'arrête à la question des inégalités de salaire. Et ensuite, vous répondrez à l'interpellation générale d'Eugénie Bastier et Clémentine Autain. Oui, il y a des inégalités de salaire, mais les carrières des hommes et des femmes sont aussi différentes. C'est-à-dire que des femmes, c'est ça la vie concrète, prennent souvent un congé parental. Il arrive qu'elles s'arrêtent de travailler pour élever leurs enfants. Elles peuvent aussi, et pour les mêmes raisons, choisir un travail à temps partiel. Donc ça ne renvoie pas nécessairement à une inégalité, mais à une différence de destin du fait que, en effet, les femmes sont des mères et que la situation des mères, le rapport des femmes à la vie domestique n'est pas tout à fait celui des hommes, et ça ne tient pas nécessairement, ou du moins c'est la question que je pose, à un préjugé, à une survivance ou à un archaïsme. Clémentine Autain.
Ce que les féministes contestent, c'est justement la place des femmes comme étant dominantes dans le foyer pour s'occuper des enfants. Ce sont des tâches que les hommes peuvent tout à fait produire eux-mêmes. Pourquoi ne le feraient-ils pas? Pourquoi est-ce que... je la constate. Je constate que l'investissement des mères au foyer pour s'occuper des enfants dans les premiers mois, mais ensuite dans les années qui suivent, n'est pas le même que celui des hommes. Et ça renvoie y compris à l'inégalité profonde du partage des tâches domestiques.
Mais pensez que c'est subi alors que c'est aussi choisi. Il y a aussi beaucoup de femmes qui désirent s'occuper de leurs enfants en bas âge et qui désirent prendre un congé
parental. Alors je suis ravie que vous posiez la question du choix, parce que c'est pas une bonne entrée dans le sujet. Si vous commencez à dire elles ont choisi. Alors sur tout sujet, des femmes choisissent de se prostituer, des femmes choisissent de porter un voile, vous touchez à la question de la liberté et de quel est le choix. Il est parfois un choix contraint, il est un choix qui est aussi lié.
Le choix était le grand slogan des féministes dans les années 70.
Je suis pour la liberté, mais je veux juste dire que la notion de choix, elle repose aussi sur des carcans de la société qui font qu'on a des choix qui sont contraints, qui sont guidés par des stéréotypes qui effectivement ont à voir avec l'histoire, que les femmes s'occupent davantage des enfants que les hommes, ça a tout à fait à voir avec des millénaires où les femmes ont été totalement enfermées dans le foyer. Donc quand je parle d'égalité justement à s'occuper des tâches domestiques et parentales et à avoir pour les hommes comme pour les femmes une vie professionnelle qui permette d'avoir une autonomie financière, grignotée aujourd'hui par le temps partiel, que j'estime être le temps partiel imposé, parce qu'il faut voir comment les femmes choisissent aussi. Hein. Quand vous avez dans un foyer un couple où le mari gagne plus que la femme, quand il s'agit d'avoir un des deux qui justement prend un temps partiel pour s'occuper des enfants, et bien souvent c'est la femme qui le fait parce que pèse sur elle le regard social et parce que par ailleurs c'est ce qui pénalise
le moins. Parce qu'elle
a
choisi aussi, je suis pas d'accord.
Eugénie
Bastier. Comme disait Chesterton, le féminisme pense que les femmes sont libres lorsqu'elles servent leurs employeurs, mais esclaves lorsqu'elles aident leur mari. Cette idée de l'émancipation totale des femmes par le travail et forcément par la carrière, je suis désolée, elle n'est pas juste. Il y a une dévalorisation du rôle de la femme au foyer qui est au cœur du féminisme, notamment du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, où elle dit ce sont des pondeuses. Le travail, elle dit le travail de la femme au foyer ne produit rien. parce qu'en effet, il n'est pas comptabilisé dans le PIB, ça ne se convertit pas en pièces sonnantes et trébuchantes. Et du coup, elle reprend d'ailleurs le vocabulaire de la croissance, il ne produit rien. Alors que le travail, moi je pense, fécond, souterrain de la femme à l'intérieur du foyer, le travail de l'éducation par exemple, aujourd'hui on en perçoit l'absence et le vide. Quand on ne peut pas accuser la baisse du niveau d'éducation uniquement à l'éducation nationale et au problème de l'école.
Pas l'imputer seulement à l'éducation nationale.
On ne peut pas l'imputer que, voilà, qu'à l'éducation nationale. Il y a aussi cette disparition, parce que généralement on dit partage des tâches ménagères, mais en fait quand la femme se met à travailler, c'est disparition des tâches ménagères. C'est-à-dire qu'il n'y a, en fait, a plus personne au foyer.
Non, c'est
et
pas vrai.
Les enfants sont seuls.
Une double journée de
sont
travail.
Laissés, sont livrés à eux-mêmes. Oui, mais quand la.
Il n'y a pas une disparition, il y a une double journée de travail. Oui, ça s'appelle, et en général, alors, elle repose sur les femmes. Pourquoi les hommes ne pourraient pas faire ces tâches? Alors, je partage un point de vue sur Simone de Beauvoir. Et qui n'est pas lié qu'à Simone de Beauvoir, c'est que la maternité chez les féministes, je dirais d'ailleurs qu'il n'y a pas le féminisme, il faut arrêter de parler de le féminisme, il y a des théories qui sont quand même très différentes des féminismes, enfin il y a un S à féminisme, il n'y a pas une pensée féministe unique. Et dans la tradition féministe, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu tantôt un courant qui a rejeté tout ce qui relevait de la maternité, de la féminité, c'est-à-dire que tout était absolument horrible, tout ce qui relevait du féminin finalement était bon à jeter aux orties, et de l'autre côté, un courant plus essentialiste qui, au contraire, a valorisé le féminin d'un seul coup, même avoir ses règles devenait un truc extraordinaire et magique. Bon, moi, je ne fais partie ni de... Enfin, je n'aime ni l'un ni l'autre. Je pense que la question de la maternité doit être traitée pour que les femmes puissent le vivre en étant des femmes libre, c'est-à-dire que la société réfléchisse aux conditions qui permettent d'être mère tout en ayant une vie globalement libre. Et pourquoi les hommes
n'auraient pas ces tâches-là? Dans les foyers et d'imposer à l'intérieur des foyers, des familles, le partage des tâches ménagères et cette intrusion de l'ingénierie sociale au cœur des familles, c'est tout à fait dérangeant et totalitaire.
Oui, justement, c'est une question que je me pose aussi, c'est-à-dire, puisque vous m'autorisez à parler, Clémentine Autain, je saisis l'occasion. Non. Placer le combat féministe dans l'horizon de l'indifférenciation. L'homme que je suis s'émerveille qu'il y ait des femmes. Et que ce ne soit pas la même chose. C'est la première des différences, celle dont toutes les autres dépendent. Et là, je voudrais vous citer Camille Froidevaux-Métry dans La Révolution du Féminin. Elle dit ceci, « Il faut pouvoir affirmer, sans avoir peur de la généralisation, que les femmes apprécient leurs conditions domestiques. Pour le dire simplement, elles aiment être mères et vivre en famille. » Et elle dit ceci, les femmes de l'âge de l'émancipation demeurent impliquées dans une existence au sein du foyer dont il faut remarquer qu'elles ne relèvent pas seulement de la contrainte et de la servitude, elles recèlent en réalité une charge positive qu'il paraît vain d'ignorer si l'on veut saisir la nature de certains choix féminins et pas les stigmatiser pour ce qu'ils ne sont pas. Et vous avez l'air de dire, un père peut être une mère peut être un père, une femme peut être un homme peut être une femme, mais il y a quelque chose, si vous voulez, de la diversité du monde qui se perd, et en plus, vous semblez traiter notre héritage historique simplement comme une longue servitude. Vous parlez de stéréotypes. Peut-être y a-t-il dans cette insistance-là autre chose qu'un stéréotype, Clémentine Autain?
Je vois que on n'en a pas fini avec ce bouleversement, parce que ce bouleversement qui est effectivement historique et qui crée du trouble, c'est parfaitement logique, parce qu'on a toujours vécu avec cette différence. C'est d'ailleurs, c'est toujours au nom de la différence qu'il y a eu des inégalités. Or, il y a deux terrains qui ne sont pas, c'est pas aux philosophes que vous êtes que je vais apprendre ça, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a le terrain de l'égalité, qui est un terrain politique, et il y a un terrain plus ontologique, où se trouve le registre de la différence. Moi, quand je parle d'égalité, c'est par opposition à l'inégalité. On est d'accord? Si vous prenez le registre de la différence, alors on est sur un registre ontologique. Que faire de cette différence des sexes? C'est ça la question qui nous est posée. Moi, mon point de départ, il est de permettre aux hommes et aux femmes de ne pas avoir des destins prédestinés. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis née femme que je dois avoir des attributs en termes de caractère, de tâches dans ma vie, de profession, de métier qui seraient inscrites et d'autres qui me seraient interdites. Et c'est vrai pour les hommes également. Et c'est vrai pour les hommes également. Donc ce que je recherche, c'est que les hommes et les femmes puissent avoir des parcours qui soient des parcours émancipés dans lesquels la liberté de choix soit véritable et non pas enfermée dans un carcan. Alors ça ne dit pas ce qu'on fait de cette différence du féminin et du masculin. Ça ne dit pas exactement quel est le chemin. Et moi, de ce point de vue, je suis très intéressée par les travaux de Geneviève Fraisse qui parle de cette question en disant d'abord que l'autre peut être semblable. Il faut faire attention, l'autre n'est pas toujours le différent, et que la différence, vous avez une inquiétude sur quelle serait une société dans laquelle disparaîtrait d'une certaine manière ce féminin et ce masculin.
Oui,
c'est
ce
l'histoire qui nous dira.
Moi, si
je ne voulez. Sais pas où ça nous mène précisément. Mais je sais en tout cas qu'il est important que des hommes puissent s'occuper de leurs enfants, ils en ont de plus en plus envie, que des femmes puissent exercer des postes de responsabilité, et je refuse l'idée d'être enfermée a priori. Après, où ça nous mène très précisément, c'est l'histoire, c'est l'historicité des rapports sociaux entre les sexes qui va nous apprendre quelle est exactement cette trajectoire et où on va au bout du bout.
Personne ne dit qu'il faut obliger les femmes et les hommes à avoir des destins particuliers, que les hommes et les femmes doivent être, que les hommes doivent être des camionneurs et les femmes des princesses. Personne ne dit ça. Simplement, je pense qu'il est dangereux de vouloir tellement prôner une forme d'égalité qu'on s'interdit de penser l'asymétrie des sexes, qui me paraît quand même avoir son signe le plus éclatant dans le privilège exorbitant de la maternité. Et en s'interdisant de penser la maternité comme un privilège féminin, le féminisme s'interdit de penser les problèmes qui s'opposent véritablement à la femme. Et notamment, c'est vrai qu'une femme entre 30 et 40 ans, son problème numéro un, c'est pas la taxe tampon. Son problème numéro un, c'est comment je vais concilier mon travail avec mes enfants. C'est le problème numéro un des femmes. Vous pouvez les interroger, c'est toujours ce qui revient. Et vous ne pouvez pas, et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est qu'après 30 ans ou 40 ans de féminisme, la différence des sexes est toujours là, présente. On n'arrive pas à en finir avec la différence des sexes, parce que de toute manière, même si on nous explique dans les grandes théories des universités américaines qu'elles n'existent pas, que tout est construit, que même la différence biologique est construite, finalement, quand on sort dans la rue, on continue à voir des hommes, des femmes, de manière phénoménologique. Il y a une phénoménologie de la différence des sexes qui, elle, est indestructible. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant, c'est que malgré les coups de boutoir du réel, mais le problème c'est que si on n'apprend pas à domestiquer cette différence des sexes par la civilisation, on prend le risque qu'elle ressurgisse de manière caricaturée et outrancière dans notamment la marchandisation, le capitalisme marchand ou dans la pornographie par exemple. Et aujourd'hui, comme on refuse de penser cette différence des sexes comme quelque chose de légitime, de civilisationnel, elle ressurgit de manière caricaturale dans par exemple les jouets sexistes, les jouets sexués dès la maternelle qui sont rose et bleu. Les jouets n'ont jamais été autant stéréotypés qu'aujourd'hui. Finalement, il n'y a jamais eu une différence sexuelle aussi caricaturale dans l'univers marchand qu'aujourd'hui. Il faut s'interroger quand même, après 30 ans de féminisme, pourquoi la différence des sexes ressurgit de manière caricaturée? Parce qu'on s'est interdit de la penser de manière civilisationnelle.
J'ai un vrai point de désaccord
qui
concerne en fait le lien entre la taxe tampon, le mademoiselle, et les inégalités, par exemple, de revenus, et toutes les formes d'inégalités dans la société. Il y a un lien, et c'est d'ailleurs,
c'est une divergence.
Une vraie divergence. Oui. C'est qu'au fond, vous pensez que le fait de qu'il y ait du rose pour les filles, du bleu pour les garçons, dès la plus tendre enfance, le fait que quand on ouvre un magazine de jouets, alors vous pouvez dire qu'en effet, il y a la marchandisation, et de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord.
Il y a une récupération,
mais elle vient pas de rien. Enfin, je veux dire, dans l'histoire, les hommes faisaient la guerre et les femmes s'occupaient du foyer. Donc quand on retrouve aujourd'hui dans les magazines, dans les catalogues de jouets, les filles avec l'aspirateur et les garçons avec les pistolets, ça n'a pas rien à voir avec la civilisation, avec l'histoire des rapports sociaux entre les sexes. C'est même une reproduction caricaturale de cette histoire-là. Et donc si on veut la déjouer, moi je suis d'accord qu'il faut lutter contre le monde marchand, le consumérisme et tout cela, mais en même temps, on ne peut pas se dire que quand les petites filles sont avec des poupées Barbie toute la journée et que les garçons sont avec des jeux de combat, etc., quand ils occupent dans les cours de récréation 90% de l'espace pendant que les filles sont confinées dans 10%, ça n'a pas rien à voir avec ce qui se passe ensuite. Le monde marchand, il récupère l'idéologie sexiste. Joue de cela. Vous trouvez normal, sérieusement, vous trouvez normal que quand vous achetez des gants MAPPA de petite taille, vous les payez plus cher que quand ils sont de grande taille? Vous trouvez normal qu'il y ait aujourd'hui des tarifs
mais ce que je vous explique,
un rasoir après... parce qu'il est rose, vous allez payer plus cher que si, s'il est
non,
bleu.
Mais attendez, si vous êtes assez naïve pour acheter un rasoir rose qui est exactement le même juste parce qu'il est rose, alors que c'est exactement le même qu'un bleu, et vous êtes prêt à le payer plus cher parce qu'il est rose, excusez-moi, mais c'est vous qui êtes aliéné au consumérisme et qui ne voyez pas la... Enfin,
écoutez, il y a beaucoup de femmes qui font cela, en
tout cas,
leur partie.
D'accord, mais...
Ah, vous me direz qu'elles ont choisi, mais déjà, elles n'ont pas forcément fait une étude pour se rendre compte de cela.
Si vous voulez,
et je pense qu'il faut...
La question, c'est pourquoi 30 ans, 40 ans après la révolution féministe, les jouets n'ont jamais été autant stéréotypés? Pourquoi? Alors qu'au contraire, on pourrait se dire, parce qu'il y a une révolution féministe...
Mais c'est parce qu'on n'a pas fini notre travail.
Non, mais c'est pire
qu'avant.
Vous avez
raison de le souligner,
je suis
d'accord.
C'est-à-dire qu'autrefois, on se prêtait un vélo de frères en sœurs. Enfin, moi, quand j'étais petite, on avait le même vélo pour les frères et sœurs, on se le prêtait. Aujourd'hui, les parents vont acheter un vélo rose, un vélo bleu, un cartable Reine des Neiges, un cartable Spider-Man. C'est-à-dire que l'univers marchand a récupéré une différence des sexes qui a été abandonnée.
Mais de la part des parents, est-ce que c'est pas précisément une sorte de résistance
peut-être,
à
justement...
l'indifférenciation, ces discours sur le genre qui consiste à penser que chacun peut décider pour lui-même de son appartenance, etc. Est-ce que les parents ne sont pas un peu affolés
sans
par
doute, oui, mais
cette
c'est...
façon de voir et donc se laissent prendre aux propositions du monde marchand
j'en suis persuadée,
pour
justement,
rétablir un peu, en effet, de manière un peu caricaturale, la différence qui semble de plus en plus ébranlée.
Bah, justement, le trouble dans le genre,
le
trouble dans le genre tel que le prône Judith Butler, qui en effet mélange et instille le doute sur la différence des sexes, je pense qu'il y a aussi une forme de crispation, parce qu'on se dit quand les enfants sont sommés dans la cour de récré au collège de définir leur identité sexuelle, on leur dit il faut réfléchir à 12-13 ans, quelle est votre orientation sexuelle, vous devez réfléchir, on leur somme de choisir une sexualité, et bien évidemment ça crée des...
Oui, c'est vrai qu'avant il y avait une sexualité et c'était comme ça, c'était
oui, non, mais c'est
rien,
on les somme de se définir par leur sexualité dès le collège. Alors que et du coup ça sème le doute dans les rapports entre garçons et filles ou entre garçons ou entre filles, et en fait cette espèce d'obsession de la sexualité fait que, à mon avis, il y a un phénomène de repli et de caricature qui c'est comme les pancartes de la Manif pour tous qui disaient vive les stéréotypes. Moi, je suis pas pour qu'on dise vive les stéréotypes, mais quand on dit abolissons les stéréotypes, la réaction c'est de dire vive les stéréotypes. Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je pense que les stéréotypes sont là pour être dépassés, mais je ne suis pas pour être transgressée. La norme est là pour qu'il y ait une
mais
forme de transgression
aussi sur ce qui, dans notre héritage historique, relève du stéréotype et ce qui est, au contraire, une civilisation et peut-être précieuse. Donc, le mot stéréotype a un peu bon dos, quand
oui,
même.
Oui, mais il faut s'interroger.
Là,
j'ai l'impression qu'on considère que toute différence est une discrimination socialement organisée, que tout stéréotype est mauvais en soi. Interrogeons-nous s'il y a peut-être des bons stéréotypes et des mauvais stéréotypes.
Oui,
et des stéréotypes légitimes et des stéréotypes qui sont en effet écrasants, des stéréotypes périmés, obsolètes et des stéréotypes qui relèvent encore du sens commun. C'est-à-dire de vouloir systématiquement détruire toute forme de norme pour ériger la transgression en nouvelle norme, finalement, la norme de l'option et du choix partout dans la vie sexuelle, dans la vie sociale. Finalement, interrogeons-nous sur la... Demandons-nous si c'est positif ou négatif. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux femmes?
Mais peut-être ne faut-il pas utiliser le mot stéréotype. Des bons stéréotypes, ce serait simplement une forme de culture.
Des codes sociaux,
voilà.
Oui.
Codes sociaux, un code culturel.
Oui.
Parler de bons stéréotypes, c'est un oxymore,
oui,
qui fait
ça
un peu hurler quand même. Mais là, je voudrais vous poser une autre question, peut-être plus délicate, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas manquer d'aborder pour ce qui est de la question de la femme, des femmes aujourd'hui en Europe. Alors, je vais d'abord citer une référence très ancienne que j'ai trouvée dans le livre de Bernard Lewis, « Que s'est-il passé, l'islam, l'Occident et la modernité ?» Il dit ceci... L'une des différences les plus frappantes entre monde chrétien et monde musulman résidait dans le statut des femmes. Il parle de la vie d'ancien régime, en quelque sorte. Les visiteurs musulmans en Europe étaient frappés par l'impudeur et l'indocilité des femmes occidentales, leur incroyable liberté, l'absurde déférence qui leur était prodiguée, et ne manquaient pas de s'indigner de la totale absence de jalousie virile chez les hommes, confrontés à l'immoralité et aux mœurs dépravées de leurs épouses. C'est des observations qui étaient faites au XVIIIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle, il y a une très nombreuse immigration musulmane en France, et la question se pose aujourd'hui. Elle s'est posée avec une particulière acuité avec les événements de Cologne. Alors, face à ce défi, face à cette différence culturelle-là, quelle doit être, à votre avis, la réaction des femmes? Quelle doit être la bonne attitude du féminisme, Clémentine Autain?
Bon, moi, je ne partage pas votre analyse plus générale sur le choc des civilisations, l'invasion barbare de hordes de musulmans qui viennent violer nos femmes.
Deux civilisations très différentes pour
c'est
ce
faux.
Qui concerne
Il
le statut des femmes, l'islam
c'est
et
faux.
L'Occident.
Je ne parle pas
de hordes barbares, je parle de deux civilisations différentes.
Je ne partage pas de ce point de vue parce que d'abord, toutes les religions dans leurs écrits et les églises dans leurs pratiques ont pratiqué la domination masculine, mais bien entendu, citez-moi, j'attends de pied ferme vos exemples. Aujourd'hui encore, même en France, moi j'ai souvenir des premières femmes voilées que j'ai vues dans ma vie, c'était des bonnes sœurs au jardin à côté de
chez
moi.
Des bonnes sœurs, mais pas des femmes. Pas des femmes. C'est pas la même chose.
C'est
des bonnes
sœurs,
c'est... Mais des bonnes sœurs qui ont choisi, qui ont fait un choix religieux. C'est pas toutes les femmes astreintes à porter le voile parce
mais
que c'est un signe
musulman,
de séduction maléfique.
Dans le monde musulman en France, toutes les femmes ne sont pas astreintes à porter le voile et je vous en présenterai avec plaisir. Je suis élue d'une ville qui est Sevran, dans laquelle je vois très régulièrement des femmes qui se disent musulmanes mais qui estiment que c'est quelque chose de l'ordre privé et qui ne mettent pas de foulard, d'autres en mettent. Bon. Maintenant, qu'il y ait en effet une bataille à mener sur l'émancipation des femmes. Et pour moi, cette bataille, elle est internationale. Je ne suis pas pour en faire une guerre de civilisation entre des catégories de population. Je suis pour qu'elle permette au contraire aux femmes d'être ensemble dans cette bataille. Et je crois que ce point est très important. Le féminisme est un internationalisme. Nous nous battons pour que l'ensemble des femmes à travers le monde puissent bénéficier de cette liberté, de ce processus d'émancipation. Si on en fait une question de choc des civilisations, alors, d'une certaine manière, d'abord on se raconte des histoires sur la nôtre, on ne voit pas ce qui reste profondément sexiste dans notre propre, je ne sais pas d'ailleurs très bien comment le qualifier, mais en tout cas dans la France d'aujourd'hui, pour le dire simplement. Et d'un autre côté, on ne permet pas de créer cette solidarité nécessaire entre les femmes à travers le monde pour que reculent les inégalités et les oppressions.
Moi, je m'érige complètement contre ce discours qu'on a entendu justement à l'occasion de l'affaire de Cologne, qui consiste à une espèce de grande nuit de l'équivalence entre toutes les civilisations. C'est-à-dire, du point de vue patriarcal, toutes les civilisations se valent et nous-mêmes, toutes les religions se valent. C'est-à-dire que le christianisme, comme l'islam, comme le judaïsme, ont eu le même rapport avec les femmes. C'est faux. C'est le christianisme qui a libéré la femme en Europe, en Occident. C'est une évidence.
D'être sourd.
Ah, non, mais c'est tout à fait. Lisez Régine Perdoux.
Le culte marial, c'est quelque chose.
Lisez Régine Perdoux. Nous, la femme au temps des cathédrales, qui explique très bien. D'ailleurs, elle relève.
J'évite Régine Perdoux.
Elle relève.
Si je puis me permettre, je déconseille aux femmes enceintes de lire Régine Perdoux.
Elle relève d'ailleurs qu'au 1er siècle, il y avait un dictionnaire qui relevait tous les noms propres des gens célèbres au 1er siècle, et il y avait une majorité de femmes. Et pourquoi ? Parce que c'était des saintes. Donc les femmes les plus connues du 1er siècle étaient des saintes, et c'est le christianisme qui a mis en avant la femme, notamment à travers les saintes. La parité était appliquée dans l'Église bien avant qu'elle soit imposée artificiellement.
D'ailleurs, tout le monde peut constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prêtres femmes.
Mais la femme dans l'Église a toujours eu un rôle très très important, hein, mais différent en effet, pas égalitariste. Mais bref, et en fait c'est contre ça que je m'érige, cette idée que voilà, nous sommes autant coupables que notre civilisation est aussi patriarcale que celle de l'islam. Nous sommes une espèce de grande nuit de l'équivalence. Et qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour condamner? Puisque nous-mêmes, nous avons été horribles avec les femmes. Nous avons fait la chasse aux sorcières au Moyen-Âge. C'était épouvantable. Alors qu'on oublie fondamentalement que le christianisme et la civilisation européenne a libéré la femme. Et que le féminisme est né en Occident, est né en Europe. Et la libération des femmes s'est faite en Occident.
Bah écoutez, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Mais vous avez entendu aussi les témoignages relevés par Bernard Lewis. Et puis je voudrais vous citer Kamel Daoud. Alors, la tribune qu'il a publiée après les événements de Cologne, et je voudrais l'écrivain algérien dans Les Républicains et dans Le Monde, et je voudrais avoir votre réaction, Clémentine Autain. Il faut offrir l'asile au corps, mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. L'accueillir n'est pas le guérir. Et je cite également Fethi Benslama, déclaration d'insoumission à l'usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas. L'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. Et la société dont il parle, ce n'est pas la société internationale, ce n'est pas la société dans son ensemble, c'est une société dont il vient et, me semble-t-il, dont il pense qu'il s'agit de la corriger. Et peut-être que l'internationalisme, c'est précisément d'aider ceux qui, à l'intérieur de la société, hommes ou femmes, plaident pour l'émancipation.
J'entends. Je voudrais quand même qu'il y ait quelques malentendus levés, au sens où il y a un intégrisme islamique qui grandit à l'échelle internationale et qui est évidemment l'ennemi de l'émancipation des femmes. Ça, il n'y a pas de... Je veux le poser tout de suite parce que je veux que les choses soient parfaitement claires. Mais il n'est pas question d'essentialiser des peuples. C'est ça qui ne me convient pas, c'est-à-dire de dire en gros, le monde arabe, finalement, il est imperméable à cette affaire d'émancipation des femmes, c'est un peuple retardé, il faudra le civiliser, etc. Je pense qu'il faut faire très attention avec ce type d'approche. Nous nous battons pour des libertés qui sont des principes, comment dire, bien sûr universels, mais qui doivent trouver des traductions, des formes différentes selon les histoires des pays. On est bien d'accord. Et donc, en France, moi, je conteste totalement l'idée. Alors, la France, c'est les racines chrétiennes, la chrétienté qui aurait libéré les femmes. Pour moi, c'est totalement insupportable. Je veux dire, les églises et la religion n'ont jamais permis des avancées, quelles que soient.
Vous essentialisez l'église.
Mais pas du tout. Mais relisez Thomas d'Aquin. Écoutez Thomas d'Aquin. Voilà, je suis sûre que vous devez trouver formidable Thomas d'Aquin. Il avait carrément imaginé des théories dans lesquelles il expliquait même que le fait d'être enceinte, c'était pas un privilège des femmes une action positive des femmes, c'était grâce au sperme des hommes qui lui était actif et rendait le sang menstruel des femmes qui lui était passif. Voilà, d'un seul coup, il se mettait en mouvement.
Mais d'accord, donc, mais c'est quand même le christianisme qui en a fini avec la polygamie, qui a instauré le mariage.
Mais non,
le mariage comme un sacrement. C'est la fin de la répudiation,
J'ai l'impression d'entendre, c'est Simone Veil qui a fait la loi sur l'avortement et c'est grâce à elle. C'est à peu près du même niveau.
Vous reconnaissez bien, Clémentine Autain, que le fait de constituer le mariage en sacrement, c'est un progrès par rapport à des sociétés qui pratiquaient la répudiation. Certes, le divorce a été une conquête, mais l'impossibilité de répudier a été une extraordinaire avancée. Pour les femmes.
Mais vous pensez que ces avancées se sont faites comment? Juste parce que les églises ont décidé? Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il y a d'abord des structures sociales qui bougent, ensuite des batailles qui sont menées?
Parce que Saint Paul a dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Et qu'il a récusé l'essentialisation et le fait qu'on enferme les individus dans des caractéristiques identitaires.
Alors prenons les choses dans l'autre sens.
La libération, elle vient de là.
Il y a donc des mouvements, globalement, de sécularisation des églises qui font qu'à un moment donné, elles bougent, leur discours est modifié, leurs préconisations sont modifiées.
Saint-Paul, c'est le début quand même.
Non, mais j'entends bien. Mais je veux dire,
c'est
au fur et à mesure.
Sécularisation de...
Non. Mais ce que je veux dire, c'est que les églises et les religions, enfin les églises en particulier, ont modifié au cours du temps la façon dont elles lisaient les textes de départ, parce qu'elles vivent dans les sociétés dans lesquelles elles sont. Donc les sociétés, elles évoluent. Mais il n'y a pas de sorte d'avant-gardisme du christianisme ou des églises pour permettre l'avancée des droits des femmes. Je ne le crois pas.
Mais alors, là, voilà. je voudrais, là-dessus, votre désaccord est clair, mais il s'est produit un petit événement tout récemment que je voudrais vous faire commenter l'une et l'autre. À Sciences Po, ce mardi, c'était Hijab Day. Déjà, première soumission, semble-t-il, parce que la langue française devrait quand même prévaloir, notamment à Sciences Po. À l'initiative de quelques étudiants et étudiantes, le principe proposait à leurs camarades de se couvrir les cheveux d'un foulard le temps d'une journée afin de démystifier le tissu, de montrer qu'il existe autant de personnalités que de femmes voilées et de proposer aux néophytes de s'essayer, même brièvement, au quotidien d'une femme dont le vêtement peut être source de discrimination. Comment avez-vous accueilli l'une et l'autre cette initiative, Clémentine Autain?
Je pense que c'est un symptôme du climat actuel, du débat autour du foulard, du voile, du hijab, enfin bon, qui prend une place, à mon avis, délirante. Hein, parce que alors, quand vous parliez tout à l'heure de la situation concrète des femmes, des vrais problèmes des femmes, on a l'impression que la question du féminisme aujourd'hui en France, enfin du féminisme ou de l'égalité homme-femme, devient réduite à ce problème de ce maudit foulard. Donc, forcément, ça crée des réactions de ce type. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus de ce débat-là.
Il devient... En
des, ah bah, vous de... ne cessez de l'entretenir, ça, j'entends bien.
En faisant ce genre de journée, le hijab day, la promotion du voile, on entretient le fait que le voile soit devenu un symbole.
Le foulard, le voile n'est pas un symbole de la liberté des femmes. Je dis juste en revanche que la focalisation médiatique et d'une partie du débat public importante sur cette seule question quand il s'agit de l'égalité homme-femme pose singulièrement problème.
Et je
trouve qu'on a atteint un état de pur délire. C'est-à-dire d'imaginer que toute femme qui a un foulard en France est une femme suprêmement aliénée quand ses voisines, elles, seraient totalement libérées, me paraît une vision un peu courte de ce qu'est l'émancipation des femmes.
Eugénie Bastier.
Non, mais moi, ce qui me frappe dans ce hijab day, c'est le fait de, vous l'avez dit, vouloir démystifier un bout de tissu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même un mépris, je pense, pour ce que c'est que l'islam et pour le symbole, en fait. C'est-à-dire qu'on veut... On veut détruire, faire d'un accessoire de mode quelque chose qui est un symbole religieux, culturel ou identitaire à la limite, et qui symbolise quand même une chose, c'est-à-dire le fait de couvrir ses cheveux du regard concupiscent des hommes. C'est pas un bout de tissu comme le serait la jupe. Et puis d'ailleurs, il n'y a aucun pays dans le monde qui oblige les femmes à porter des jupes. Il existe des pays dans le monde où on oblige les femmes à porter le voile. Donc on ne peut pas dire que c'est un bout de tissu normal. Enfin. Comme les autres, et que c'est un vêtement comme les autres. Et il y a une espèce de relativisme, ça montre bien, cette journée a permis de dévoiler quelque chose, c'est-à-dire le relativisme consubstantiel à une forme d'extrême-gauche, puisque ça a été organisé d'ailleurs par l'UNEF, et par la gauche...
Parce que s'il y en a qui nous entendent, ils doivent vraiment bien rigoler.
D'ailleurs, c'est très amusant parce que...
C'est étrange quand même de voir la gauche... De voir la gauche peut-être pas extrême, mais enfin l'UNEF n'est pas ancrée à droite, que je sache, et de voir la gauche justement soutenir le voile islamique. On peut considérer, mais comme non, vous Clémentine Autain, qu'on en fait trop autour du voile, je reviendrai sur cette question, mais cette alliance entre une gauche qui a toujours été laïque, qui s'est toujours battue pour l'émancipation, et... le voile qui est vraiment la présence en tout cas du religieux dans l'espace public, dans l'école, dans l'université, c'est tout à fait saisissant quand on pense à ce qu'a été la gauche très longtemps en France.
C'est très amusant parce que le président de l'UNEF Sciences Po qui a soutenu ce hijab day était le même qui avait soutenu la journée de la jupe pour tous, je ne sais pas si vous en souvenez, à Nantes.
On incitait les hommes à porter
des jupes.
C'était frais.
Donc voilà, on est dans un espèce de relativisme.
Ce qu'on appelle
la journée de la jupe pour tous, c'est comme le rouge à lèvres, excusez-moi, c'est comme le rouge à lèvres qu'on a mis, un petit geste pour une grande cause, le
8 mars.
Je veux dire.
Ça vous angoisse?
Mais c'est pas que ça m'angoisse. Les hommes et les femmes, ce n'est pas la même chose. Un homme, et vraiment, c'est une manière de dire, on peut à un moment donné, par solidarité, franchir la barrière symbolique des sexes, on va se mettre en jupe, puisque les femmes se mettent en pantalon. C'est toujours cet horizon effrayant de l'indifférenciation, qui est ce qui peut, aujourd'hui, ou quand même la liberté règne, nous arriver de pire. Donc, la journée de la jupe, oui, pour les femmes qui veulent avoir le droit de le porter dans certains quartiers où ce n'est pas possible, mais des hommes astreints à porter des jupes pour montrer leur solidarité avec les femmes, il y a une autre manière d'aimer les femmes, d'aimer le féminin et le féminisme, de faire ce genre de geste absurde et d'une laideur extrême. Voilà, excusez-moi.
Alors, juste pour vous répondre là-dessus, je voudrais vous lire un très très court passage de François Poulain de la Barre, qui est un intellectuel qui, en 1673, ça remonte un peu, a publié un livre passionnant qui s'appelait « De l'égalité des deux sexes » et il raconte justement ça, que ce serait une chose plaisante de voir une femme enseigner dans une chaire l'éloquence ou la médecine en qualité de professeur, marcher sur les rues suivie de commissaires et de sergent pour y mettre la police, haranguer devant les juges, être assis sur un tribunal pour y rendre justice, etc. Enfin, conduire une armée. J'avoue que cet usage nous surprendrait, mais ce ne serait que par la raison de la nouveauté. Si en formant les États et en établissant les différents emplois qui les composent, on y avait aussi appelé les femmes, nous serions accoutumés à les y voir. Donc c'est bien, quand vous dites c'est insupportable, il y a quelque chose qui est de l'ordre, parce qu'on n'a pas cette habitude.
Mais pourquoi pas se mettre des seins aussi pendant qu'on y est, dire, c'est, vous voyez, moi j'ai pas de seins, je trouve ça merveilleux les seins des femmes, j'ai qu'à avoir des seins. On n'a qu'à faire une journée des seins. Voilà, ce serait une très belle idée.
Ce qui est amusant quand même,
pourquoi
c'est
les
que
hommes ne pourraient pas
ce qui est amusant, c'est ce qu'on appelle justement l'intersectionnalité, c'est le fait que ce soit les mêmes qui défendent la journée pour tous, c'est-à-dire et qui défendent la journée du hijab, c'est-à-dire cette idée que voilà, il faut que les dominés du patriarcat blanc hétérosexuel doivent se rassembler pour combattre ensemble donc les homosexuels, les femmes, les musulmans. Tout ça doit se coaliser dans une espèce de convergence des luttes.
Exactement.
Contre un ennemi commun. Mais on n'a pas les mêmes intérêts. Et cette convergence des luttes, elle me paraît complètement
aberrante.
Alors,
je voulais répondre sur la question de la laïcité et de ce rapprochement qui vous paraît improbable. Mais je vais dire les choses de façon très simple. Et en réalité, notre analyse, je dis notre... Bon, après, vous avez constaté qu'au sein de la gauche, c'est un débat qui fait rage. Mais en gros, je dirais que notre analyse, elle repose sur le fait que nous pensons que le racisme aujourd'hui prend la forme d'un rejet des musulmans. Et que je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas mis beaucoup la main à la pâte ces dernières années pour l'égalité homme-femme, être obsédé par ce foulard, mais parce qu'en fait, à travers ce foulard, ce qu'il s'agit de faire, c'est de dénoncer le monde arabe et le monde musulman,
mais
en fait, de pratiquer une forme de racisme.
Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont...
Voilà le problème devant lequel nous nous trouvons.
À l'inverse, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont obsédées par l'égalité des sexes, qui se sont tues quand les imams salafistes sont venus à Pontoise faire des discours à la journée de la femme musulmane, complètement sexistes et rétrogrades. Donc oui, ce deux poids deux mesures, il existe, mais du côté de la gauche également.
On peut se renvoyer ça de façon permanente, mais regardez par exemple Elisabeth Badinter, bon, qui a élevé la voix quand même fortement, qui donne des leçons à tout le monde sur...
Elle en prend pas sur la gueule aussi, excusez-moi.
Quelqu'un, je vous ai entendu vous révolter par le fait qu'elle est... Elle est quand même actionnaire, majoritaire, je ne sais pas, mais en tout cas elle fait partie des actionnaires importants de Publicis. Publicis vient de signer un contrat avec l'Arabie Saoudite pour redorer sa communication. Ça ne dérange absolument personne.
Oui, que, mais enfin, vous n'allez pas discréditer ses propos.
C'est le gouvernement. Je pense que c'est un problème.
Et
la capacité d'indignation, je vois bien qu'elle est sélective. Je vois bien qu'elle est sélective. Quand un ministre israélien orthodoxe refuse de serrer la main à Marisol Touraine, je ne vous ai pas entendu.
Il y a eu une indignation. Alors, il y a eu plein de papiers dans les journaux. Il y a eu beaucoup de...
Je ne vous ai pas entendu. Alors, sur Cologne, je vous assure qu'on était là.
Je voudrais alors citer Elisabeth Badinter. Être traité d'islamophobe est un opprobre, une arme que les islamo-gauchistes ont offerte aux extrémistes. Taxer d'islamophobe, ce que le courage de dire « nous voulons que les lois de la République s'appliquent à tous et d'abord à toutes » est une infamie, voilà, pour les propos qu'elle a tenus. Et je voudrais alors justement revenir une seconde sur le voile et poser une question plus générale. Peut-être en effet que certaines femmes, et vous le dites d'ailleurs l'une et l'autre, considèrent que, en portant le voile, eh bien, elles exercent leur liberté. C'est ce qu'écrit Hélène Bégy dans Istan Pride. Le voile s'est érigé en droit à la différence. Il s'enroule sur les têtes dans un geste où chacun brandit la bannière qui lui plaît pour exister. Reste que le voile, c'est aussi une forme, comme l'a écrit Marcel Gauchet, de séparatisme identitaire. C'est une forme de refus du métissage, du partage des femmes. Et ça, dans une société qui se prétend justement ouverte et multiculturelle, ça devrait poser un problème. Autre problème, dénoncé par Pascal Boitard, ancienne secrétaire d'État aux femmes, dans beaucoup de quartiers, les femmes sont cantonnées à certains espaces, le foyer, la sortie d'école, et quasiment absentes d'autres, comme les lieux sportifs ou les lieux de convivialité. Est-il normal que dans certains endroits, vous ne trouviez aucune femme dans les cafés? Parce que peut-être que notre civilisation n'est pas meilleure que les autres, mais les cafés, c'est une très vieille composante de la civilisation française, qui a été touchée d'ailleurs le 13 novembre. Et les cafés, c'est depuis des lustres, depuis des siècles, ce sont des lieux de mixité. Or, il y a des lieux en France où les cafés ne sont plus des lieux de mixité. Qu'est-ce qu'on fait devant un phénomène pareil, Clémentine Autain?
Oui, moi je suis pour la mixité. Je reviens juste sur ce livre formidable d'Elebeji Islam Prine, qui part au contraire d'une interrogation. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte, c'est que elle a vu fleurir ces foulards qui, en effet, à un moment donné, devenaient une forme de revendication identitaire face à ce monde qui leur semblait fermé par cette modernité, cette façon de ne pas être capable de faire vivre une France qui soit accueillante, qui lutte contre les discriminations. Il y a eu ce phénomène qui est un phénomène que l'on peut constater de repli identitaire. Donc moi je suis pour poser la question que pose Elebeji, c'est-à-dire quelle est la bonne stratégie pour que ces femmes n'aient plus envie de porter ce foulard. Et donc je ne suis pas pour la stigmatisation, je suis pour qu'on arrête de focaliser là-dessus et qu'on ait une discussion avec elles. Alors le foulard, il a deux significations. Donc il y a une signification qui a à voir avec la domination masculine et il y a une signification religieuse. Mais enfin, vous constaterez que toutes les femmes qui mettent un foulard ne le mettent pas pour les mêmes raisons. Certaines pensent que si elles le mettent pas pour traverser le quartier, ça va être plus compliqué. D'autres pensent donc ce débat est un débat complexe et je trouve que la façon dont il est aujourd'hui présenté dans le débat public, il nie totalement cette complexité.
Je suis d'accord,
Eugénie Bastier.
Je suis tout à fait d'accord avec le fait que on peut pas réduire le voile à un simple symbole de soumission au patriarcat. Il y a aussi une dimension identitaire. Et quand on voit les jeunes filles de 17 ans qui commencent à mettre le voile, c'est à qui sera la plus musulmane pour exister. C'est une sorte d'étendard pour exister en tant que musulman, une espèce de revendication identitaire. Ou alors, quand on écoute les discours des femmes qui se voilent, c'est aussi un rejet de la société libertaire, de l'ultra-consumérisme, de l'exhibition du corps des femmes, avec une espèce de réflexe de pudeur pour se protéger. C'est ce qu'elles disent. Après, voilà, moi je le déplore, ce port du voile, mais je me dis, en effet, comme vous, quelle est la meilleure stratégie pour convaincre les femmes de ne plus le porter. Et je ne pense pas que le boycott ou l'interdiction du voile à l'université soit des...
Moi, je ne sais pas en quoi il vous énerve tant que ça, pour avoir lu votre livre, Eugénie Bastier, ce foulard, parce que finalement, vous trouvez que l'avortement, ça serait bien s'il n'y en avait quasiment plus. Vous trouvez que les femmes au foyer, dans votre livre, c'est... Bon, alors peut-être, mais enfin, en tout cas, pas trop, ce ne peut pas être un droit... j'en pourrais reprendre vos propos. Vous trouvez que les femmes au foyer, c'est formidable, que le mademoiselle, il faut qu'il soit...
Non, moi, je défends le choix. Donc, je défends le choix des femmes qui veulent rester au foyer, je défends le choix des femmes qui veulent garder leurs enfants.
Oui, mais pas le choix des femmes.
Je défends le choix des femmes qui veulent se voiler, mais. Okaya Diallo disait je défends, moi je suis pour que les femmes disposent de leur corps, c'est-à-dire je défends le droit des femmes de se voiler et de se prostituer. Moi je défends aussi le droit des femmes de ne pas se voiler et de ne pas se prostituer. Chacun ses priorités.
Oui, mais attendez.
Sauf qu'il y a des normes sociales.
Vous défendez le droit, mais vous n'avez pas répondu à la question du séparatisme identitaire, une affirmation identitaire qui est une forme de séparatisme aussi.
Séparatisme.
Cette manière
qui le crée aujourd'hui, le séparatisme.
Une femme qui décide de se voiler le crée en disant qu'il n'est pas question pour elle d'entrer en relation amoureuse avec un non-musulman. Et ça, c'est pas du tout la société française qui le crée. De même dans les cafés.
Une société française.
Dans les cafés. Les cafés non mixtes, c'est pas la faute.
Monsieur Finkielkraut, une société française qui contrôle au faciès, qui fait des ghettos dans lesquels justement on voit bien comment classe et race, je reprends les thèses d'Angela Davis et d'autres, se mêlent. Vous pensez que cette société-là, elle ne fabrique pas justement des frontières et que ce n'est pas elle qui pratique une forme de séparatisme?
Non.
C'est la question qu'on doit aussi se poser.
On peut se poser la question.
C'est intéressant, vous parlez de non-mixité. Et je pense que la mixité des sexes à la française, telle qu'en a très bien parlé Claude Habib, par exemple, elle est doublement menacée à la fois par une forme de puritanisme islamique et un séparatisme entre les sexes, et aussi par une forme de puritanisme anglo-saxon qu'on retrouve dans la théorie du genre. Et je suis allée à Nuit Debout cette semaine, et il y a la commission féministe...
C'est de la chance.
Oui, je n'ai pas eu les honneurs l'honneur de me faire cracher dessus comme vous. Mais
vous pensez que c'est un honneur, donc.
Pas vécu comme ça.
Je suis allée à la commission féminisme et figurez-vous que justement la commission est non mixte, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas droit de participer au débat. Donc il y a des ficelles qui sont tendues et les hommes sont autour et les femmes débattent entre elles. Et je trouve ça absolument atroce, ça veut dire que c'est la fin de l'universalisme. C'est-à-dire que si on n'a pas vécu quelque chose, on n'a pas le droit d'en parler. Et c'est la fin de toute empathie, de toute de la base de la civilisation qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Finalement, il y a aussi une forme de séparatisme.
Ce que vous répondent les participants ou les participantes de Nuit Debout, dont je me fais très provisoirement l'avocat, c'est que les femmes n'ont pas vraiment souvent la parole dans les assemblées générales et que c'est une manière de compenser leur quasi-éviction dans les lieux
ça essentialise
dits de mixité.
ça essentialise les hommes comme des dominants par essence, alors qu'il y a des femmes qui sont parfois beaucoup plus intimidantes que les hommes. Moi, par exemple, quand je suis allée à la commission féminisme, je n'osais pas prendre la parole parce que elle m'intimidait. Et donc finalement, c'est essentialiser les hommes dans une espèce de voilà de la case, la case du dominant. Mais non, mais c'est elle, puisqu'elles interdisent aux hommes de participer au débat.
Mais non, bah, oh là là.
Si.
Bon, mais non, vous mélangez deux registres. L'essentialiste, celui qui considère que parce qu'on est femme, on a des propriétés, des qualités, un destin potentiel.
Et là, ils disent parce qu'on est homme, on est dominant.
Mais non, dans la société, bah oui, aujourd'hui dans la société, je suis désolée, il se trouve qu'il y a une domination du masculin sur le féminin.
Ça veut pas essentialiser.
Mais absolument pas. Cela ne veut pas dire que, en toutes circonstances, du matin au soir, vous vous trouvez dans un rapport absolu de domination dans chaque rapport humain entre un homme et une femme. C'est pas ce qu'on est en train de raconter. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une asymétrie dans les rôles et une domination du masculin sur le féminin dans la société. Et si vous ne voyez pas cela.
Vous pensez que c'est comme ça que les gens vivent aujourd'hui, que c'est la réalité quotidienne, dans la vie affective, dans les amitiés, dans les conversations, même dans le travail, c'est la domination.
Je suis en train de vous dire l'inverse.
Ah bon, alors j'ai mal compris.
Je suis en train de vous dire exactement l'inverse. Que heureusement, d'abord, on n'est pas obligé d'avoir conscience tout le temps d'être pris dans, y compris, même dans les moi je pense que le consumérisme est quelque chose de totalement aliénant, est une aliénation absolument épouvantable. On n'est pas obligé de se dire tout le temps qu'on est aliéné par le système marketing, etc. Bon, et de passer du matin au soir à se dire qu'on est conditionné par un système qui fait qu'on a un acte d'achat compulsif et qu'il est lié à la façon dont la société imprègne nos actions. Donc heureusement que du matin au soir, les femmes se disent pas que quand, par exemple, elles se baladent la nuit, elles ont un risque de tomber sur un violeur, etc. Heureusement qu'on croit qu'on a une sorte de fiction qui est
alors,
tout à fait sympathique
de notre
propre liberté. Sinon, c'est insupportable.
Est-ce que la coquetterie évidemment, et ça se traduit par des achats, la coquetterie, parce que il faut se maquiller, il faut s'acheter des robes, il faut éventuellement suivre la mode ou la refuser. Est-ce que la coquetterie relève de l'aliénation, selon vous, Clémentine Autain, et puis
La coquetterie, je ne sais pas bien ce que c'est. L'élégance, vous voulez parler de l'élégance, peut-être.
Oui, l'élégance, la coquetterie, le souci de l'apparence, qui a évidemment une traduction marchande. Est-ce que ça fait partie de cette aliénation, de cette pression du système marchand sur nous.
C'est la façon dont elle s'exprime. Je trouve que l'élégance, le fait de prendre soin de soi, mais les hommes aussi, de plus en plus, je trouve, on se soucie de la coquetterie. Je sais pas si j'utiliserai ce terme, mais en tout cas de l'esthétique. Et c'est un langage aussi, l'esthétique. Donc, oui. Mais ne pas voir qu'elle a été façonnée par 2000 ans d'histoire de domination masculine, franchement. Moi, je mets du rimmel, vous n'en mettez pas, il y a une raison, non? Vous ne portez pas de talons, non plus, je crois.
Que c'est la coquetterie, la galanterie sont des moyens civilisés d'exprimer ces différences des sexes qui existent, d'une manière raffinée, un raffinement de la différence des sexes. Mais si c'est en effet se soumettre au diktat des mannequins anorexiques qui défilent dans les pages des magazines féminins, évidemment, là, je pense qu'on est justement dans une forme d'aliénation. Tout le danger, c'est d'arriver à civiliser ces différences des sexes de manière raisonnable et esthétique et pas tomber dans une espèce de diktat d'un marketing justement mondialisé d'ailleurs qui impose de manière uniforme avec la mondialisation marchande les mêmes codes esthétiques à tout le monde.
Votre horizon, c'est civiliser la différence des sexes. Le vôtre, pour terminer, Clémentine Autain.
L'égalité.
L'égalité.
Et la liberté.
Bah écoutez, c'est parfait. Je trouve que ces deux formulations résument très bien votre opposition qui est, je dois le dire, restée tout au long de cette émission très courtoise. Donc je voudrais vous remercier, Clémentine Autain, Eugénie Bastier. Je rappelle, Eugénie Bastier, le titre de votre livre, Adieu mademoiselle, la défaite des femmes. Il est publié aux éditions du CERF. Toutes les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est disponible. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Des vaches et des hommes. Mes invités seront Jocelyne Porcher et Yann Sergent. Nous parlerons de la question animale, de l'élevage et de la ferme des 1000 vaches. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui, Tahar Bouklifa, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet, l'orthographe modernisée, violentée, avec Bernard Cerchiglini.